Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et c'est l'heure du débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous. Nathalie Lévy ce soir, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia.
Le coronavirus continue à se propager à travers le monde. Au total 17 cas avérés en France. Deux patients sont décédés. L'homme décédé à Paris, un enseignant de l'Oise, on l'a appris tout à l'heure, un Français de 60 ans. Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bien entendu, on revient sur cette nouvelle disparition en France qui a bien entendu semé le doute une fois encore sur ce virus, ce coronavirus. Est-ce que la psychose va s'installer? Comment, dans quel délai peut-on avoir des éléments de réponse aujourd'hui? D'autant qu'on sait eh bien, que cet homme n'a pas voyagé dans une zone touchée par le virus. Et c'est ce qui interroge Gérard Carrérou d'autant plus ce mercredi soir.
Oui, c'est un mystère, quoi. Tant qu'on ne saura pas les allées et venues, enfin, on a l'impression en tout cas que ce monsieur qui est décédé, ce professeur de 60 ans, n'avait pas été dans les zones dites à risque, n'avait pas rencontré de malades ou de touristes chinois. Donc tant qu'on n'aura pas effectivement les résultats d'une enquête qui peut-être sera longue, il faudra reprendre tous ses proches et demander à chacun de ses proches s'il n'a pas lui-même rencontré. Tant qu'on n'aura pas le résultat, il y aura un doute. Il n'y a rien de pire que le doute dans une crise. Parce que jusqu'à présent, l'opinion a plutôt... Il y a eu un sondage, je crois que c'est Elab qui a fait ce sondage. En gros, l'opinion est partagée pratiquement en deux moitiés entre ceux qui sont plutôt inquiets.
Voilà,
plutôt inquiets, 53%, mais enfin, c'est une petite majorité. Les autres ne sont pas inquiets. Donc, et 58%, je me souviens, disent effectivement que la crise est plutôt bien gérée par rapport aux attentes. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de panique, c'est une bonne chose, mais il y a quand même un peu d'émotion. Et il ne faut pas grand-chose pour passer d'un climat de légère inquiétude à un climat de panique. Et parce que, et bien sûr, les morts, c'est ça qui frappe le plus, surtout s'il s'agit de morts dont on n'arrive pas à expliquer la raison de la contamination.
Exactement. On n'a pas le patient zéro, comme en Italie d'ailleurs, Charles Villeneuve, parce qu'il y a cette annulation aussi du carnaval de Nice. Vous connaissez particulièrement bien la région. La fête du citron à menton aussi annulée. On voit bien le principe de précaution de plus en plus. On voit bien, il y aura réunion autour d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, tous les soirs. Il y aura même un point presse. La question de fermer les frontières, elle s'est posée aussi, on l'a entendu, avec Marine Le Pen, entre autres. Aujourd'hui, on est passé à un stade supérieur. C'est l'impression que vous avez ?
Oui, même si il faut raison garder largement, parce que Gérard vient de souligner qu'il y a une véritable, d'ailleurs, votre invité précédent l'a très bien expliqué de l'Institut Pasteur, c'est une véritable enquête de voisinage, comme les qualifient les policiers, sur le décédé, l'enseignant décédé. Il faut dire que celui qui est hospitalisé dans un état grave à Amiens, correspond parfaitement aux mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'il a lui-même, il n'a pas fréquenté une
des
zone d'exposition à risque. Mais moi, je pense que la psychose, s'il y avait une multiplication des décès comme il y a en Italie, là, je pense qu'en effet, l'inquiétude augmenterait de manière assez importante. Sauf que quand vous discutez avec des professeurs comme Xavier Lescure, qui sont des infectiologues de très haut niveau, Jean-Paul Stahl du CHU de Grenoble, ou Pialou en France, je crois qu'il est à Bichat. Non, c'est Lescure qui est à Bichat. Tous ces gens-là vous disent, nous sommes prêts.
Exactement.
Nous sommes prêts parce que nous sommes rodés. Parce qu'en 2003, en 2013, nous avons eu des épidémies que nous avons jugulées.
La France s'est préparée, c'est ce que...
Il y a 80 hôpitaux, exactement, même plus que ça,
108,
103,
108,
103, 103, 70, plus, c'est toi qui as raison, 38,
108, 108.
C'est-à-dire 108 hôpitaux qui sont sur le pied de guerre, si j'ose dire.
Exactement, c'est ce que nous disait également l'épidémiologiste de l'Institut Pasteur. La France est préparée, pharmacie, hôpitaux, chercheurs, tout le monde est sur le pont. La France est préparée, Alexandre Malafaï, la France est préparée, mais on a vu en un week-end en Italie 370 cas, 12 morts. Ça peut aller très vite, ça peut se retourner en quelques instants.
En fait, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Jusqu'à présent, la bonne nouvelle, c'était que ce virus était d'une létalité relativement très faible, donc il se propageait selon des voies classiques, apparemment. Et puis, il tuait assez peu, donc il tuait quand même, mais il tuait assez peu. La mauvaise nouvelle, en tout cas, qui vient de surgir, c'est qu'on ne sait plus finalement comment il se propage.
C'est ça.
Et ça, il y a une énigme, mais effectivement, ça a été souligné, c'est un vrai sujet. Après, c'est vrai qu'il faut, et je crois qu'on a très vite tendance en France à taper sur l'État, sur les services de l'État, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on remet toujours tout en cause, mais là, quand même, il faudrait juste rappeler que nous avons des services qui fonctionnent exceptionnellement bien, avec des hauts fonctionnaires, des équipes, dans les hôpitaux, les médecins, partout, qui sont remarquablement préparés. Et c'est vrai que là-dessus, on est sur un niveau de veille et de vigilance qui est de nature à rassurer l'ensemble des populations. Après, évidemment, il y a un certain nombre de messages d'alerte qui ont été passés au plan mondial. Et c'est vrai que si ça devait devenir une véritable pandémie, il faudra se poser beaucoup de questions. Alors, même si on est préparé en France à encaisser le choc, il n'empêche qu'on a un nombre de lits très, très faible en ce qui concerne l'urgence en matière de réanimation s'il fallait tout d'un coup faire face à une propagation massive. On n'en est surtout pas là. Je crois qu'il faut raison garder. Non. Pour l'instant, il y a quelques énigmes qui tournent autour de ce virus et je crois qu'on peut... Voilà. Il faut éviter, en revanche, de commettre des imprudences. Le match de foot de soir,
Il y a deux choses. Pardonnez-moi, messieurs, je vous écoute attentivement, comme toujours. Il y a deux choses. Il y a le match de foot, on va y venir dans un petit instant. Et puis, pardon, mais la grève des urgences, là, depuis des mois. On n'en parle pas, on va se retrouver, on sait qu'on a du personnel exsangue depuis des mois, on sait très bien comment ça a été géré par Agnès Buzyn, aujourd'hui c'est Olivier Véran qui reprend le dossier, mais finalement qui se retrouve, j'allais dire, écrasé par le coronavirus. L'engorgement.
Il n'est pas encore écrasé.
Non, mais pardonnez-moi, ce que je veux dire par là, c'est que on n'est plus sur la crise des urgences, d'ailleurs, on est sur la crise du coronavirus pour Olivier Véran.
Mais Nathalie, sur le plan des lits, les professeurs avec lesquels vous parlez disent que de toute façon, il y en a assez sur ce plan-là, disponible même pour des cas venus d'Italie.
Oui, mais il y a l'épuisement aussi, il y a le facteur humain.
Il faut nuancer.
Bien sûr. Alors on nuance dans un instant ? On nuance dans un instant, les grandes voix, si vous le voulez bien.
Vous écoutez Europe 1, votre grand journal du soir, il est 18h40. Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et jusqu'à 19h, c'est le débat des grandes voix autour de vous. Ce soir, Nathalie, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia.
Et on se parle bien sûr de cette crise du coronavirus avec le premier décès d'un Français, de 60 ans, la nuit dernière à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un enseignant dans un collège de l'Oise. Et cela a été confirmé très vite. Cet homme n'avait pas voyagé dans une zone touchée par le virus, une zone à risque. On en parlait donc avec vous trois messieurs et la question qu'on se posait c'est à la fois la recherche du patient zéro qui va prendre un petit peu de temps, l'enquête est en cours et peut-être le saura-t-on, mais Charles Villeneuve, vous vouliez insister vous sur la manière dont cela commence en quelque sorte.
Oui, mais si vous voulez, quand il n'a pas voyagé donc l'enseignant
absolument
et apparemment il n'a pas eu de contact avec des gens contaminés. À partir de là, si vous voulez, les médecins ont du mal à
tracer,
à retrouver la chaîne de transmission. Et c'est à partir de là que l'épidémie peut en quelque sorte prendre une vitesse de propagation qu'on n'arrivera plus à contrôler. Il semble d'ailleurs qu'en Italie, ce soit un peu le cas. Bon, mais ce n'est pas le cas en France. Pardon. Et c'est la raison pour laquelle Xavier Fontané, je crois qu'il s'appelle comme ça, le chercheur de l'Institut Pasteur, insistait sur l'enquête de ce que j'appelle l'enquête de voisinage.
Exactement.
Voilà. Et c'est vrai que c'est très important de déterminer. Alors peut-être trouveront-ils en tout cas les réponses. C'est pour ça que moi, je n'ose pas dire, si vous voulez, que l'épidémie est là. Elle est présente. Pas encore, en tout cas. Et puis, il ne faut pas oublier que lundi, 24 février, le nouveau ministre de la Santé est venu nous dire qu'il n'y a plus aucun cas
en France.
En France,
c'est vrai.
Tout va bien.
Tout va bien. On s'en souvient, c'est pour ça aussi que le match se joue ce soir.
Oui, justement. Moi, je me garderais bien de faire un pronostic médical. Hein. Je ne suis pas un docteur et je ne suis pas un spécialiste. J'écoute avec attention. Quand il y a des nuances, j'essaye, comme vous, de les discerner. Mais ce qui me frappe, là, c'est de la politique, et de la gestion de la crise. C'est de la gestion de crise. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a une sorte de cohérence générale, globale. On a vu aujourd'hui un certain nombre de mesures prises au nom du principe de précaution qui ont été prises. Vous les avez rappelées tout à l'heure, évoquées, aussi bien Menton, la fête
que le dernier jour du carnaval de Nice.
Le dernier jour du carnaval de Nice. Toutes ont un point unique, c'est de dire on se place dans la précaution. Or, il y a une tâche ou un bug, si vous voulez, dans la précaution, c'est ce qui se passe ce soir avec le match. Je souhaite de tout mon cœur, et je pense que tous les Français comme moi, je souhaite de tout mon cœur qu'on ne constate pas dans plusieurs jours que quelqu'un a été contaminé à l'occasion de cette circonstance. Je trouve que là, on a fait une erreur. Et je pense que peut-être demain, ça sera évoqué lorsque le Premier ministre recevra...
Ce qui ajoute à l'incohérence de ce que tu viens de souligner, c'est qu'au même moment où on apprenait que le match était maintenu, celui du tournoi des Six Nations, Irlande-Italie, Irlande, était annulé.
C'est un peu, il y a quand même une espèce de contradiction de dichotomie. Alexandre Malafaï, on aura un auditeur dans un instant sur ce sujet. 3000 supporters italiens quand même qui font le déplacement. 3000, c'est pas deux. Et quand bien même, de toute façon, s'ils étaient infectés.
3000, c'est pas deux. C'est d'autant plus incohérent qu'on a vu que, par exemple, que les contrôleurs de la SNCF décident maintenant qu'ils s'arrêtent à la frontière française. Donc là, on va faire rentrer chez nous 3000 italiens qui viennent plutôt d'une zone dans laquelle, a priori, il y a un peu de vigilance à avoir sur ces questions-là. Et c'est vrai que ça tombe à un moment donné où tout d'un coup. En effet, on peut s'interroger à nouveau sur c'est quoi ce virus. C'est vrai qu'on sait que les virus ont une capacité à muter. Et si le virus est rentré dans un phénomène de mutation et que ce n'est plus la même souche qu'il y avait il y a encore quelques semaines en Chine, c'est vrai que là, on est face à un problème nouveau qui est peut-être à l'origine de ce qui se passe en Italie, qui va arriver chez nous. Et là, on est dans une zone particulière. Donc le principe de précaution, je crois qu'effectivement, jusqu'à présent, on avait plutôt tendance à le gérer prudemment. Donc faisons pas n'importe quoi, mettons pas toute l'économie par terre. Mais là, si tout d'un coup, on amène 3000 Italiens, il suffit qu'il y en ait 5 infectés, ça suffit pour vraiment créer un précédent qui va coûter cher aux décideurs qui ont pris la décision.
Bien sûr. Alors Philippe nous appelle depuis la région Loire-Atlantique. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Nathalie Lévy, bonsoir les grandes voix.
Merci
bonsoir.
D'être avec bonsoir, nous Philippe. Vous êtes vous dans cette logique-là de match OL-Juve? Vous êtes comment? Vous dites quoi ce soir?
Moi je ne comprends absolument pas, je suis complètement d'accord avec les grandes voix. Je trouve ça très paradoxal. On demande aux enfants qui rentrent de vacances d'Italie de rester en quarantaine chez eux. Et là, on accepte 3000 Italiens. Alors, j'ai rien, franchement, contre les Italiens. Mais je suis même pour la Juventus, pour rien de vous cacher. Voilà, je vais faire des ennemis à Lyon.
Mais non, monsieur Lyon.
Alors, il y a tellement d'enjeux, peut-être financiers, mais je trouve ça inadmissible. Enfin, moi, vu de ma fenêtre, je ne comprends absolument pas cette décision de maintenir ce match.
Oui, la question, c'était, et je vous la pose à vous, Philippe, et aux grandes voix, c'est voilà, le foot, il n'y a pas plus important que le foot, à croire d'une certaine manière que qu'on se positionne.
Attendez, là. Le foot, les impératifs commerciaux. Ou simplement financier d'un club, etc. Moi, je veux bien les comprendre jusqu'à un certain point. Et le risque de mort d'homme.
Bien sûr,
le risque de contamination et donc de mort d'homme le jour où effectivement on apprend qu'il y a eu un mort. Je trouve que c'est.
Mais c'est irresponsable. Non, Charles Villeneuve, vous qui connaissez très bien le milieu du football, je vous pose d'autant plus la question qu'on se dit ils n'ont pas passé les 3000 supporters. Ni la température, ni rien. On ne sait pas. Il n'y a pas eu d'examen préalable. Alors, qu'est-ce qui prime, là? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête des ministres? Pourquoi on laisse...
La Ligue des Champions.
Donc, le foot prime.
La Ligue des Champions. L'UEFA, d'ailleurs, a émis un avis en disant qu'il ne voyait pas très bien pourquoi, compte tenu du fait que Turin n'était pas directement touché, n'était pas dans la zone de contamination.
Oui, enfin, regardez, bien sûr, je le redis, nous sommes là dans le cadre d'un match face à Turin. Il n'y a pas de malade à Turin, il ne s'agit pas d'une zone à éviter en Italie, a dit Olivier Véran. Mais attendez, donc il y a des frontières, en fait.
C'est
comme le nuage de Tchernobyl, ça passe pas jusqu'à...
Il faut savoir, tout à l'heure, j'ai écouté le professeur Gentilini, que je connais personnellement, et qui disait, mais les virus, les frontières,
ils s'en foutent, c'est ça. Comme Tchernobyl,
d'autant plus qu'il n'était pas question de supprimer ce match. Il s'agissait simplement de le faire jouer, mais sans les supporters italiens, et de dire il y a 3000 supporters italiens, écoutez, on est désolé, on va vous rembourser, ça va coûter, je ne sais pas combien ça vaut une place.
Non, on n'a qu'à le faire jouer en Angleterre, puisque
on pouvait trouver une solution technique qui soit, pour le coup, fondée sur l'autel de la précaution. Et là, ce coup-ci, franchement, Dieu sait qu'on applique le principe de précaution parfois à tort et à travers et de manière parfois absurde. Autant là, ça faisait sens, parce que c'est vrai qu'on est tous en train de se poser la question de est-ce que vous ne prenez pas un risque inconsidéré? Et là encore, je le redis, ceux qui vont avoir pris cette décision ce soir, si ça dérape, vont se retrouver face à une problématique compliquée.
Et Charles, je reviens encore vers vous, mais là, le pompon, enfin, vous allez dire que peut-être je n'y comprends rien au foot, mais la Juventus jouera dimanche à huis clos, fois, à l'occasion du choc contre l'Inter Milan pour éviter toute propagation. Alors là, qu'est-ce qu'on fait
pour le rappeler. Non, mais c'est vrai, mais écoutez,
on marche un peu sur la tête.
En général, ça joue avec les pieds. le foot, mais là, on est sur la tête, voilà. En effet. Bon. Mais il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a, si vous voulez, fait tiquer un peu, c'est la consigne donnée par une sorte de lettre recommandée du ministère de l'Éducation nationale, qui est arrivée seulement lundi, dans la matinée de lundi, dans toutes les écoles. Et donc, à partir de là, la plupart des proviseurs, des directeurs d'école, ont été pris à contre-pied, puisqu'ils se sont retrouvés avec des parents qui amenaient leurs enfants, les enfants rentrés de pays, soi-disant, en tout cas, c'est vrai, à risque, notamment l'Italie et aussi la Thaïlande, etc., etc., là où on va en vacances en général à Noël. Et puis, il a fallu reprendre les enfants et les mettre en quarantaine à la maison pendant 15 jours.
Il y a une erreur de timing grossière.
Ça, il m'a étonné.
Il fallait effectivement les mettre en quarantaine à la maison avant de les remettre à l'école.
Parce que normalement, c'est le bon sens.
Une pensée pour Mme Buzyn qui est à Paris, peut-être très contente d'être en campagne à Paris et plus dans son ministère de la Santé.
C'est vrai, vous avez raison, c'est fou. On est passé au travers.
C'est le deuxième bug. J'ai cité le bug du match. Le deuxième bug, c'est
d'avoir quitté le navire en plein.
Vous voulez dire les attaques entre candidats.
Et les attaques entre candidats avec des documents, avec des assertions fausses. Ouais. Puisque effectivement dire, moi je ne suis pas pour partisan fanatique de la maire de Paris, de Madame Hidalgo,
mais elle a été obligée de prouver avec
des documents. Elle a fourni des documents qui montrent que contrairement à ce qu'avait dit Madame Buzyn, elle s'était intéressée à l'affaire. Donc là je trouve que c'est malencontreux. Tout ce qui est clivant dans une affaire comme ça, éveille dans l'opinion, on se dit, ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce qui se passe, on nous cache des choses.
On écoute Magali, elle nous appelle du 42, en la Loire. Bonsoir Magali.
Bonsoir Nathalie.
Vous revenez-vous de Venise?
Oui, tout à fait. Je rentre de Venise, où nous avons passé 4 jours avec ma fille. Nous y sommes allés à l'occasion du carnaval. Nous sommes partis donc le samedi matin, et nous sommes rentrés hier après-midi.
Et donc là, vous êtes comment? Vous allez travailler normalement ou vous êtes chez vous, confiné?
Alors, quand nous sommes rentrés, déjà, je me suis posé beaucoup de questions pour savoir si nous allions pouvoir rentrer, s'il y aurait beaucoup de contrôles, etc. Ouais. Aucun.
Aucun?
Aucun contrôle.
Pas de questions, rien.
Rien. Alors, rien. Nous avons pris le bateau de Venise pour aller jusqu'à l'aéroport. C'est un bateau où nous étions confinés. Nous étions deux. Avec ma fille, avoir un masque, aucune protection. Nous sommes arrivés à l'aéroport, très peu de personnes avec un masque. Aucun personnel navigant avec un masque. Donc là, toujours
encore
aucun contrôle, rien. Donc j'ai pris l'avion, on s'est demandé si on gardait le masque ou pas, parce que du coup, il devait y avoir 2-3 masques de protection, sachant que c'est vrai qu'il n'y avait pratiquement plus de masques à Venise.
Rupture de stock, largement.
Complètement. Quand nous sommes arrivés à Lyon, je pensais naïvement qu'il y aurait des contrôles, aucun.
D'accord.
Donc si vous voulez, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'il n'y a eu aucune information.
Aucune information, c'est ça.
Ni à l'aéroport de Venise,
d'accord.
Ni par la compagnie aérienne et ni à l'aéroport de Lyon.
Et ça fait vraiment froid dans le dos. Merci beaucoup Magali, et vous vous êtes mise en quarantaine avec votre fille, donc elle a pris l'initiative, Magali elle-même, de se protéger, ou en tout cas de protéger les concitoyens. C'est quand même dingue ce qu'on entend là, vous rendez compte messieurs?
Ça confirme en tout cas que les Italiens sont peut-être un peu moins organisés que les Français, parce que quand on voit le niveau de capacité à gérer ou à préparer ce type de crise, on voit bien la différence des services de l'État d'un pays à l'autre.
Mais sauf que quand elle arrive en France, on ne lui pose pas de questions non plus.
Oui, mais là, je pense qu'il y a un flux de passagers et de voyageurs dans tous les sens.
Enfin,
qui fait qu'à ce stade, c'est encore compliqué tant qu'on n'a pas monté d'une gradation.
Non, mais tu as raison de souligner, c'est un fait important, parce que très souvent, si vous voulez vaincre une épidémie ou la ralentir, ou en tout cas battre une épidémie en quelque sorte, car c'est un match à vie, eh bien, ça dépend beaucoup de la qualité du maillage sanitaire d'un pays.
Eh oui. Et c'est ce que vous disiez hier, en Italie, on sait que le système hospitalier aussi n'est pas du tout à la hauteur de la France. Quelques mots, s'il vous plaît, messieurs, sur le procès Fillon dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de la compagne, de l'épouse, Pénélope Fillon, de l'ancien Premier ministre. Alors, ça n'a pas été très long aujourd'hui parce qu'il y a l'étude des questions prioritaires de constitutionnalité plaidée par la défense, c'est très procédural, on ne va pas rentrer dans le détail. Non. Il y a une grosse attente évidemment, on le sait, hein, autour de ce procès. Gérard Carrérou, beaucoup de monde déjà pour venir à cette première journée après Balkany, avant Tapie en juillet. C'est le procès évidemment du moment avec de gros risques pour les époux Fillon.
Oui, il y a, bien sûr, il y a des gros risques parce que la peine encourue est de 10 ans de prison. Bon, et bien évidemment je ne crois pas qu'on aille là, mais enfin bon, dans le code, c'est 10 ans de prison.
10 ans de prison, 150 000 euros d'amende.
L'enjeu de ce procès, quand il commencera vraiment, probablement demain, parce que je pense que les QPC, les deux questions de constitutionnalité vont être retoquées, repoussées.
Rejetées, ouais.
Mais quand le procès va commencer, c'est de démontrer, est-ce qu'il y a eu ou pas emploi fictif. S'il y a eu emploi fictif, elle sera condamnée. Et M. Fillon sera condamné pour abus de recel d'emploi fictif. Mais si, par contre, on peut toujours imaginer un procès, après tout, il y a des procès avec des verdicts surprenants. Si il n'y avait pas culpabilité, en tout cas pour M. Fillon, parce que pour Mme Fillon, je pense que les jeux sont faits à partir du moment où il y a l'histoire secondaire, mais de sa collaboration au magazine, etc. Et comme le patron du magazine en question a été condamné, elle sera obligatoirement condamnée. C'est comme ça, on ne peut pas appliquer deux poids deux mesures sur la même affaire. Mais pour M. Fillon, imaginez que M. Fillon soit relaxé. Vous imaginez tout ce qu'on peut dire sur le déroulement
et
de
sur
notre
la rapidité
dernière élection.
Et sur, bah, sur la rapidité, aussi,
la saisine, alors que le canard enchaîné n'avait même pas été encore lu, puisqu'il était dans les rédactions l'après-midi, mais il n'était pas encore dans le public.
Exactement. Charles Villeneuve.
Alors, pour moi, le principal enseignement, ce n'est pas ça. Plus généralement, je pense que ce procès illustre l'affaissement du pouvoir politique au profit de l'autorité judiciaire, qui va organiser le travail politique d'un député et même l'organisation de sa vie privée par rapport à sa charge. Et c'est donc un recul du pouvoir exécutif politique
et un début
au
du gouvernement
profit des juges.
Alexandre Malafaille, enfin.
Non, mais le message fort, c'est qu'on pourra tirer toutes les leçons, on peut commenter l'affaire, on verra ce que dira la justice. Et il y aurait beaucoup aussi à dire pour défendre Mme Fillon, qui peut-être pendant 30 ans a soutenu son mari et a peut-être été payée pour faire quelque chose. Elle n'a sans doute pas fait rien pendant 30 ans, mais bon, on verra ce que dit l'histoire. Moi, j'en tire une leçon qui est importante, c'est que ça doit interpeller les gens qui nous dirigent, la classe politique des hommes et des femmes, sur le fait qu'il y a un point central quand même derrière toutes ces affaires, toutes celles qu'on a vues ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, c'est l'enjeu de l'exemplarité de ceux qui nous dirigent. Et cette absence d'exemplarité est la cause principale du rejet par les Français de la classe politique et des dégagismes et autres. Et ça alimente tout ça, une machine à détruire la vie politique française. Il faut que les gens qui nous gouvernent se reprennent en main.
Merci beaucoup Alexandre Malafaille, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. On rentrera dans le vif du sujet demain, normalement, dans ce procès Fillon qu'on suivra de près avec vous. Merci à tous.